En attendant que le match reprenne, c'est une compétition sportive historique racontée par Philippe Collin pour se consoler des annulations de tous les matchs, des JO ou encore du Tour de France. Et pour ne pas se laisser abattre, donc tous en selle. Petit voyage dans le temps et sur la grande boucle, nous sommes en 1947, c'est le Tour de la Libération, Philippe Collin, la première édition après la Seconde Guerre mondiale.
Le 25 juin 1947, on étouffe sur le bitume de Paname. C'est la canicule, mais au pied de l'Arc de Triomphe, dans une veste teddy très chic, l'homme aux mains d'argile se tient debout, tout sourire, entouré des forçats de la route. Marcel Cerdan, impeccable d'élégance, s'apprête à lancer la 34e édition du Tour de France. Retour aujourd'hui sur cette grande boucle de la convalescence, car après le fracas de la guerre, les cyclistes s'apprêtent à soulager une France pétrie de stigmates. Alors que le Tour de France 2020 aurait dû sillonner les routes de l'Hexagone depuis le week-end dernier, eh bien voici l'histoire compensatoire. À l'époque, pour organiser un Tour de France, on estime qu'il fallait à peu près une tonne de barbac, 800 kilos de bananes et presque autant de sucre. A priori, ce n'est pas grand-chose. Or, en 1947, ce sont des quantités rares et précieuses dans un pays totalement pris au piège des pénuries. Car on l'oublie trop souvent, mais les cartes de rationnement ont survécu à l'occupation allemande. C'était la mouise, il fallait tout reconstruire. Alors, on hésite. Doit-on relancer malgré tout cette compétition sportive ? Eh bien, le gouvernement tranche, il faut de la joie. La population est excédée. Elle attend l'été et ses réjouissances, alors quoi qu'il en coûte, les vélos reprendront la route.
Tour de France, quelle chance, c'est la course du bonheur.
Organisée par un nouveau journal, issu de La Libération, le quotidien L'Équipe, l'édition 1947 renoue avec la tradition. Ainsi donc, après 7 éditions annulées, le Tour est de retour.
21 étapes, 100 coureurs, 5000 km, 5 millions de primes, telles sont les grandes lignes du 34e Tour de France. Après un défilé à grand fracas à travers Paris, le départ de la première étape Paris-Lille est donné à la volée à Pierre Pic.
En juin 1947, les Français avaient encore en mémoire le sirop noir de l'exode sur les routes de France du printemps 1940. Cette immense caravane triste, cette mélasse apeurée, pilonnée par les Stuka de la Luftwaffe. Mais avec les cyclistes du Tour de France, c'est un peloton chamarré qui sillonne soudain le pays du nord au midi. Alors oui, il y a de la joie. Et en plus, le grand favori porte des couleurs tricolores. Il s'appelle René Vietto, il est cannois et son heure est enfin venue. C'est certain, c'est un grand champion, cette fois ce sera pour lui. D'ailleurs, René Vietto endosse le maillot jaune dès la deuxième étape entre Lille et Bruxelles. Personne ne se méfie alors du trompe-la-mort. Surnom donné au casse-cou Jean Robic, petit coureur breton, teigneux et grincheux, visage ingrat taillé à la serpe, Robic a une sale gueule. Il est né en 1921, puis il a grandi à Radenac, petit village du Morbihan. Il est tout malingre, 1m57 pour 56 kilos. N'empêche qu'il s'est marié à Raymonde, le Robic, 4 jours seulement avant le départ de ce Tour de France. Il a pris en épousailles Mademoiselle Cornic, fille d'un cafetier de Montparnasse. Et, sur l'oreiller de la nuit de noces, Jean lui a fait une confidence. « Je suis pauvre, je n'ai aucun bien, Raymonde, mais dans un mois, je t'offrirai le Tour de France. » On ne prend jamais assez au sérieux la promesse d'un amoureux tout frais. Arrive alors la 15e étape entre Luchon et Pau, 195 km, 4 cols de montagne, dont 2 monstres, l'Aubisque et le Tourmalet. René Vietto est toujours en jaune, Nous sommes le 13 juillet 1947.
Duchampeau, étape clé, celle où doit se jouer définitivement le maillot jaune. Vietto attaque péniblement Peyresourde, la première difficulté du parcours. Pendant ce temps, Robic s'envole, passe le premier en haut d'Aspin et attaque le Tourmalet. Pour le breton Robic, cependant, Aspin, le Tourmalet, où l'attendent des enfants du pays qui se mêlent à une foule considérable et colorée, obisque autant de victoires qui le conduiront à Pau, avec près de 11 minutes d'avance sur son suivant immédiat René Vietto, toujours détenteur du maillot jaune.
Ce jour-là, oui, Robic a frappé un grand coup. Il a surclassé Vietto dans cette redoutable étape de montagne. Un téméraire, le Robic. Mais il est sans doute déjà trop tard pour gagner ce Tour de France. Il ne reste qu'une poignée d'étapes et l'avance de René Vietto au classement général est encore considérable. Dans les deux étapes suivantes, en Aquitaine, au milieu du peloton, Robic gamberge. Que faire, bon sang ? Il se souvient de la guerre, si proche. Robic vivait en région parisienne et pour échapper au STO, il a déménagé 23 fois. Il se déplaçait sans cesse à vélo, 120 bornes par jour. Un entraînement d'enfer, de la dynamite dans les guiboles. Nous voilà le 18 juillet 1947 et la caravane du Tour arrive en Bretagne, chez lui, à Vannes. Le lendemain, dans un contre-la-montre extrêmement difficile jusqu'à Saint-Brieuc, à la surprise générale, René Vietto passe complètement à travers et laisse filer son maillot jaune à l'Italien Pierre Brambilla. Quant à Robic, porté par le petit peuple breton, porté aussi par sa Raymonde, présente sur le bord de la route, il a résisté et il est désormais troisième au classement général, à 2 minutes 58 du leader. Il ne reste alors que deux étapes. Arrive l'ultime tronçon entre Caen et Paris. 257 km. Nous sommes le 20 juillet 1947. Le triomphe semble tendre ses bras à l'Italien Brambilla. Mais c'est le tour de la libération, alors tout peut arriver. Robic est aux aguets et René Vietto pourrait encore ressusciter. Allez savoir. Sans aucun doute, Victor Hugo aurait écrit sur cette dernière étape, sur ce petit confetti d'Histoire de France qui commence là où les GIs ont débarqué 3 ans plus tôt à Caen. Les souvenirs sont vifs. Normandie, morne plaine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, le soir tombait, la lutte était ardente et noire. Le cycliste avait l'offensive et presque la victoire. Il tenait Brambilla acculé sur un bois, son guidon en main. Il observait parfois le peloton au loin, sombre comme un aspic. Le speaker joyeux cria « C'est Vietto !» C'était Robic.
Et c'est de Caen, ville martyre, que sera donné le départ de cette dernière étape qui va tout changer au classement général. Voici Rouen où 6 coureurs, emmenés par Tesser, passent en tête avec 13 minutes 30 d'avance. Mais la côte de bon secours va décider de la victoire. Robic et Fachletner lâchent Brambilla. Et à Saint-Germain, les 5 hommes de tête n'ont plus que 5 minutes d'avance sur Robic. Le Belge chasse se détache et gagne l'étape, cependant on sait déjà que Robic a ravi le maillot jaune de Brambilla. Le voilà. La foule l'acclame, le haut-parleur le proclame, la radio consacre le grand vainqueur du Tour de France. Et c'est M. Gaston Monnerville qui passe le maillot jaune à Robic.
Promesse tenue du jeune marié. Jean Robic a donc réussi l'exploit de gagner le Tour de France 1947 sans avoir porté le maillot jaune une seule journée. Rendez-vous compte, il a braqué la banque au culot. Lui, le gamin chétif, colérique. Un poil vaniteux, certes, mais parfois, il faut bien ça pour compenser le reste. Lui, avec sa tronche de gargouille d'une église bretonne, il est sorti du rang à la force des mollets et s'est hissé au sommet pour défier les sarcasmes de sa jeunesse moquée. En avril 1944, Robic avait failli laisser sa peau sur le vélo. Sur Paris-Roubaix, il s'est fracturé la caboche sur les rails du tramway en gare d'Amiens. Ça n'a rien arrangé à sa gueule. 3 ans plus tard, sur la piste du Parc des Princes, il entre au panthéon des cyclistes avec sa dot. Raymonde est aux anges, tout autant que le petit village de Radenac dans le Morbihan. Voilà l'enfant du pays, de retour chez lui. Tendez l'oreille, voici Jean Robic.
Voilà, et on arrive, maintenant on va rentrer dans le bourg. Et voyez cette maison-là, alors là, le propriétaire il porte le nom de la commune, Émile Radenac. Lorsque j'étais jeune, j'allais travailler avec lui. On coupait des vieux cercles de charrette et on forgeait, je tapais sur le devant à l'enclume et on formait des fers à chevaux. J'avais 13-14 ans avec le gros marteau. Puis je cassais la croûte avec lui après, c'était très bien.
Vous l'avez sans doute reconnu, lui c'est Jean Robic, celui qui a tant fait vibrer le cœur des foules du Tour de France. Vas-y Robic, vas-y Biquet, un cri d'encouragement inscrit dans la légende, mais qui aujourd'hui a cessé de faire rire.
Dans sa grande piété, Robic avait déposé son maillot jaune dans la basilique de Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan. Un ex-voto profane qui ne l'aura pas protégé d'une mort soudaine et stupide. En 1980, un accident de voiture. À 3h du matin, en Seine-et-Marne, il s'est assoupi. Sa bagnole s'est encastrée sous un poids lourd. Il est mort sur le coup. Jean Robic, vainqueur au cœur d'une France libérée et fatiguée mais tournée vers l'avenir. Jean Robic restera le souvenir de cette France d'après-guerre, une sorte de monsieur tout le monde, à l'image de tous ces Français ni héros ni salauds qui ont traversé l'occupation comme ils ont pu. Il fut le champion populaire au sens noble d'une France en train de se réconcilier. Jean Robic, 1921-1980, cycliste gringalet et promesse d'un horizon possible pour tous.
Merci Philippe Collin à la réalisation. C'était Henri-Marc Mutel. Et cette année, le tour, ce sera du 29 août au 20 septembre.